France Culture.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Ouais.
Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ait peints? Non!
Pardon, darling.
I adore your work. I just adore your work. I adore.
Voilà. Je vous laisse avec l'art. C'est-à-dire l'artificiel qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mais le problème avec la photo, c'est qu'elle constitue un patrimoine fantôme, un patrimoine mirage, comme un château de papier bâti sur du vent. Et comme elle est elle-même destructible, altérable, comme la pierre ou le visage qu'elle se promet d'éterniser, elle n'est jamais qu'un cran poussé contre l'anéantissement, un souvenir de souvenir. C'est dans le journal Le Monde qu'Hervé Guibert écrit ces lignes saisissantes, car l'écrivain s'y est fait chroniqueur de la photographie. La photo, inéluctablement, est le titre du recueil qui rassemblera ses chroniques. Mais en ce jour de 1980, Hervé Guibert est troublé. Il rend compte d'une exposition qui inaugure au Grand Palais l'année du patrimoine, hier pour demain. La photographie saura-t-elle sauver le passé ? Face aux clichés ethnographiques qui cherchent à retenir ce monde que nous sommes en train de perdre, il est déçu. Ce ne sont que des images fantômes et, écrit-il encore, elles semblent tellement assurées d'elles-mêmes qu'elles glissent sur l'extérieur des choses, elles se limitent à l'apparence. Quand soudain, un coup de théâtre. Hervé Guibert tombe nez à nez avec la reconstitution d'un intérieur paysan, la salle commune des Fajoux. C'est comme si on pouvait entrer dans la photographie. Tout est là, en place. Ce monde d'hier est pour demain. Mais en est-on certain? Qui a ramené ces objets dans un musée? Et a-t-on le droit d'ainsi patrimonialiser la vie? On en parle dans « Allons-y voir » avec Anaïs Mahoahurin et Bertrand Tillier, bientôt rejoints par notre sociétaire du jour, Manuel Charpie.
Ainsi, en 1964, Julou, le forgeron des Hermaux, a fabriqué une dernière série de fer à bœuf. Et puis, la forge s'est tue. Peut-être à jamais.
Des racines et des hommes, 1964, on a entendu et on entendra encore Jean-Dominique Lajoux. Bertrand Tillier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire du patrimoine à l'Université Paris 1, où vous dirigez les éditions de la Sorbonne. Historien de l'art de formation, vous croisez études visuelles et analyse des discours et des pratiques politiques. Et c'est dans cette optique que vous avez publié de nombreux livres sur la caricature, l'affaire Dreyfus, mai 68, ou la Commune de Paris, Révolution sans images, pour reprendre le titre d'un de vos beaux livres parus chez Champvallon en 2004. Les images, vous en faites la vie sociale. Vous saisissez l'œuvre dans son espace public, comme dans l'un de vos derniers livres, « La disgrâce des statues », essai sur les conflits de mémoire de la Révolution française à Black Lives Matter, paru chez Payot en 2022. Mais c'est chez CNRS Éditions que vous avez publié l'année dernière le très beau livre dont nous allons essentiellement parler aujourd'hui, « Le fantasme patrimonial, récit des Fajoux, Aubrac 1964-1966, fantasme patrimonial ». Oui, ça veut dire image, mais ça veut dire aussi illusion.
Exactement, c'est-à-dire que ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer de confronter par une lecture, disons, la plus fine possible, et j'espère y être arrivé, l'ambition qui était celle de Georges-Henri Rivière et du Musée national des arts et traditions populaires et des équipes constituées, avec cette idée de tout conserver, oui, de tout patrimonialiser, de tout retenir avant, au fond, que ça ne s'évanouisse.
Bonjour Anaïs Mohu-Harin.
Bonjour.
Vous êtes historienne de l'art, chercheuse associée au Centre Alexandre Coiré, et vous travaillez sur l'usage des images photographiques par des institutions et des laboratoires d'ethnologie depuis l'entre-deux-guerres. Ainsi avez-vous mené des enquêtes sur différentes collectes africanistes, comme celle de Jean Rouche, du Musée Royal de Bruxelles, sur les photothèques du Musée de l'Homme, mais aussi aujourd'hui le laboratoire d'anthropologie sociale. Pour comprendre votre démarche, je conseille l'entretien que vous avez accordé à Clément Fabre dans la revue numérique Entretemps, et c'est aux presses universitaires de Strasbourg que vous avez publié une version remaniée de votre thèse, un formidable livre qui s'appelle « À l'épreuve des images, photographie et ethnologie en France, 1930-1950, à l'épreuve hein, ». C'est ça qui est important, c'est que d'une certaine manière, l'ethnologie, elle se sert des images, mais les images, d'une certaine manière, la mettent à l'épreuve comme discipline.
Oui, oui. L'enjeu de ce livre, c'était de voir à la fois comment l'ethnologie utilise les images, mais qu'est-ce que les images font aussi à cette discipline en retour, et comment elle est travaillée par précisément ce fantasme de la collecte, cet ensemble de photographies colossales qu'elle va constituer, et comment ça joue sur les raisons pour lesquelles les ethnologues vont pratiquer la photographie. Et ça serait intéressant de comparer aussi avec ce qui se fait pour l'ethnologie de la France, parce que je pense qu'on a des dynamiques finalement assez différentes entre contexte colonial et contexte, disons, plus métropolitain. Ce sont d'autres logiques.
Mais ce sont parfois les mêmes hommes et les mêmes institutions, et c'est de cela dont on va parler. Bertrand Tillier, cette ouverture, je vous l'emprunte, hein, sur Hervé Guibert, qui arrive dans le Grand Palais, qui est un peu déçu par la photographie et saisi par la reconstitution.
En fait, Guibert, qui est donc le critique photo du Monde dans ces années-là, mais qui est au début aussi de la constitution de son œuvre littéraire, d'autofiction, Guibert va voir l'exposition pour y regarder une série de photos très particulières qui sont celles de Charles Lhermitte, qui sont des photos ethnographiques sur la Bretagne. Et il est très déçu par ces photos, il dit qu'elles sont trop conscientes de leur mission, de ce qu'elles sont, de ce qu'elles doivent montrer. Et c'est là où le sens de sa visite de l'exposition hier pour demain se modifie, bifurque, et il tombe en arrêt devant cette reconstitution qui lui inspire une réflexion sur ce qu'est la limite de la photographie et sur le rapport néanmoins avec la photographie que cette reconstitution peut avoir, c'est-à-dire une sorte de photographie pénétrable.
Oui, mais pourtant, Anaïs Mohu-Harin, la photographie, elle est en soi une reconstitution du réel. On peut pas imaginer que pour les ethnologues, ils pensent l'enregistrer directement. Ils la composent toujours un peu, cette photographie.
C'est intéressant, mais précisément, il y a un peu le fantasme de saisir sur le vif et de façon très objective. Alors, je parle pour une période un peu antérieure. Faudrait voir comment ça se développe justement dans les années 60, et c'est ce qu'on peut voir aussi dans votre ouvrage. Mais il y a vraiment l'idée, depuis le milieu du 19e siècle, c'est d'une objectivité mécanique avec l'idée que la photographie, parmi d'autres outils d'enregistrement, mais va précisément permettre d'arriver à saisir la chose, là je cite Mauss, la chose naturelle dans la position naturelle, que l'idéal en fait du travail scientifique va être cet enregistrement sans altérer le réel, avec une à la fois l'idée que le chercheur, via ce type d'instrument, et en adoptant presque, en incarnant presque lui-même ce que serait un appareil photographique, va pouvoir être à la fois passif dans la façon dont il capte ce qu'il est en train d'observer, et en même temps, via la photographie, répondre à un désir d'exhaustivité, en fait, dans le fait de capter le réel.
Bertrand Tillier, il y a effectivement quelqu'un qui est présent dans votre livre, c'est Marcel Maget, qui lui essaye de théoriser cette sorte de retrait ou de neutralité, enfin essayer de ne pas influer sur la scène qu'on est en train de saisir.
Oui, parce qu'en fait, tout ça se joue dans le cadre d'une ethnologie qui se veut immersive,
oui,
c'est-à-dire de se plonger dans un monde auquel on n'appartient pas, mais dans lequel on va s'installer, qu'on va pouvoir observer avec beaucoup d'attention, au point, en quelque sorte, de s'y faire oublier. Et Marcel Maget, qu'on a un peu oublié, mais qui a été le bras droit de Georges-Henri Rivière pendant toute une première partie de sa carrière, Marcel Maget a théorisé, d'ailleurs à destination des étudiants de l'école du Louvre qui étaient désireux de se former à l'ethnologie, la manière de procéder, c'est-à-dire au fond de se fondre dans ce monde pour pouvoir l'archiver, notamment par la photographie et par des dispositifs qui sont, Anaïs Mohu-Harin a raison, les plus les plus objectivants possibles, même si c'est un leurre.
Alors, c'est un leurre, mais justement, c'est ce leurre que cherchent à saisir, quand même, malgré tout, les photographes. On a entendu Jean-Dominique Lajoux en 1964. Le voilà en 1975, c'était dans les après-midi de France Culture.
Tout a commencé d'une façon, enfin à grande échelle, à partir de la RCP au BRAC. Et malheureusement, elle est restée sans suite. Et elle n'ayant duré que 3 ans, de 1964 à fin 1966, il restait beaucoup de choses à faire. Et d'autant plus, d'une façon d'autant plus rapide que l'on sentait que tout disparaissait de plus en plus vite. Or, il se trouve que les moyens qui existaient avant 1964 étaient des moyens relativement difficiles pour sauvegarder ce genre de technique et ce genre de tradition. Il les souhaita, bien sûr, pour enregistrer des fêtes de ce genre, de travailler avec l'audiovisuel, de travailler avec le cinéma, de travailler vraisemblablement avec la vidéo à partir de maintenant. Mais en 1960, lorsque j'ai commencé, ça fait plus de 10 ans, ça fait 15 ans, les moyens étaient relativement restreints. La télévision commençait seulement à faire du reportage synchrone direct. Donc l'apport de la technique a permis à ce moment-là d'envisager les choses sous un autre angle. Et je crois que justement, il aurait fallu à ce moment-là que les fonds financiers suivent. Mais malheureusement, le cinéma, pour la recherche en sciences humaines, est un moyen dispendieux très très vorace de crédit. Et ça n'a pas toujours suivi.
Anaïs Mohuarin, vous avez dans À l'épreuve des images, vous êtes fait l'historienne de cette ambition de collecte. Et ça fait longtemps, au fond, ouais. Là, on est en 64, qu'on dit que le monde, on est en train de le perdre. Depuis, finalement, les archives de la planète d'Albert Kahn. Hein.
Ouais, on peut même remonter
même avant ça,
même au 19e siècle. Et là, c'est aussi intéressant de voir comment ce fantasme un peu techniciste de la technique qui va résoudre le problème est une rengaine aussi qu'on trouve depuis les débuts. En fait, c'est jamais suffisant en fait ce qu'on met en œuvre. Et en effet, depuis le 19e siècle, il y a vraiment cette idée de choses qui sont en train de s'évanouir, qui sont en train de disparaître, qu'il faut aller collecter, qu'il faut aller sauvegarder, avec aussi vraiment le paradigme naturaliste de la collecte qui imprègne complètement l'anthropologie depuis le 19e siècle, qui est très prégnant dans cette période-là, avec aussi en parallèle, donc on essaye de collecter à la fois des objets, mais de plus en plus de documentation. Et ce mot de documentation, il apparaît vers 1870, et ça va devenir un peu un maître mot de cette discipline, comme d'autres disciplines, mais vraiment prégnant dans cette discipline-là, avec l'idée que collecter des images, mais aussi des sons, dès que l'on peut, un peu plus tard, va permettre d'accéder à... en fait, on va oublier la matérialité de l'objet photographique avec l'idée que, via un effet de transparence, on accède au réel, on accède au fait, à travers ce que montre l'image, avec d'abord une anthropologie de cabinet qui va vraiment travailler à partir des documents pour accéder directement aux faits tels qu'ils sont, pour travailler, pour étudier ça depuis les cabinets des savants.
Oui.
Et on a ce fantasme-là qui perdure vraiment au début du XXe siècle.
Et ça, on l'a entendu, Bertrand Tillier, par la voix de Jean-Dominique Lajoux. Parce que malgré tout, même si ce discours du monde que nous sommes en train de perdre est une rengaine, en 64, il se passe quand même des choses sérieuses hein, dans le monde paysan. Et, oui. et c'est ça qu'ils veulent documenter.
Oui, c'est la fin des paysans, pour reprendre le titre d'un ouvrage célèbre qui paraît à peu près au même moment. Et au fond, toute la RCP au BRAC dont parle Lajoux dans le petit extrait qu'on vient d'entendre, a pour ambition, de manière transdisciplinaire, de documenter les mutations d'un monde qui est en train de changer, c'est-à-dire globalement passer d'une économie agro-pastorale laitière hein, qui permet de fabriquer de la fourme à une économie agro-pastorale bouchère,
oui.
Ce qui fait qu'aujourd'hui on mange de la viande de braque. Voilà. Donc c'est cette mutation économique, mais aussi sociale, culturelle, que la RCP au BRAC est chargée d'accompagner et de documenter avec, in fine, une démarche qui est aussi une démarche documentaire, c'est-à-dire d'accumulation de toutes sortes de choses. Des objets que l'on achète, des photos que l'on fait de manière massive, du cinéma comme le pratique Jean-Dominique Lajoux, mais aussi toutes sortes d'empreintes, hein, des dessins, des relevés topographiques, des moulages aussi qui vont servir à retenir ou essayer de retenir.
Oui, retenir. Et les moulages, on va en reparler, mais commençons par la photographie. Tenez, choisissez 101. Dites-nous ce qu'on voit, ce que Guibert a vu, ce qu'on peut voir dans ces... dans ces photos des Fajous, puisque c'est là-dessus que vous avez effectivement concentré votre enquête.
Alors, je choisis celle-ci, hein, qui est une photo de Pierre Soulier, qui est l'un des grands photographes, ou l'un des principaux photographes avec lesquels Georges-Henri Rivière travaillera au Musée National des Arts et Traditions Populaires. Et cette photographie...
Qu'est-ce qu'on y voit, hein?
On y voit Georges-Henri Rivière avec deux vieux paysans aubraciens, Joséphine et Laurent Girbal, hein, qui sont un frère et une sœur célibataires qui vivent dans ce hameau Cantalou, de 3
Laurent est en sabots.
Laurent est en sabots, avec un feutre mou sur la tête, en bourgeron, avec un pantalon rapiécé. Et il serre la main de Georges-Henri Rivière, qui, de l'autre côté, tient par l'épaule, hein, dans un geste un peu étonnant, d'ailleurs.
Et elle-même, elle regarde la caméra, Joséphine, de manière un peu étonnante aussi.
C'est une expression un peu indécise. Elle a l'air très impressionnée. Elle sourit vaguement, je dirais. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est cette poignée de main qui se détache entre les deux hommes. Parce qu'en fait, on vient de conclure un marché qui est la patrimonialisation, le démontage et la translocation à Paris de la salle commune où leur famille vit depuis plus d'un siècle.
Et en regardant... cette photo, Anaïs Mouillard, en fait, vous n'êtes pas dépaysé. Vous avez travaillé sur d'autres contextes de collecte en période coloniale, en situation coloniale. Ben, d'une certaine manière, là, il y a quand même un échange qu'on devine très inégal.
Oui, tout à fait. En effet, on est assez frappé pour cette photo et par Rivière, la présence de Rivière sur les photographies, sur la photographie en l'occurrence, c'est assez rare de voir les membres de l'enquête aussi présents, aussi visibles et aussi, là, il y a vraiment l'idée de s'afficher avec les personnes qu'on est en train de muséifier et qui, a priori, ont participé, en fait. Enfin, c'est très intéressant dans l'ouvrage, participer assez volontairement à leur propre muséification, aussi en contribuant à apporter des objets, et en concluant ce marché qui est assez incroyable, en effet, du coup, on a un rapport de domination qui est quand même très complexe, qui rappelle évidemment d'autres situations, mais là, qui est très complexe.
Oui, c'est un rapport social, c'est un Parisien qui vient voir des provinciaux dans un milieu particulièrement rural. C'est aussi, comme on dit aujourd'hui, un sachant qui vient à la rencontre des enquêtés, mais les enquêtés sont des fournisseurs de matériel, ils servent de relais, ils connaissent d'autres enquêtés potentiels, ils fournissent des objets, et puis il y a la radicalité de ce geste qui consiste à se défaire de son environnement familial.
Et ces ethnologues, ils arrivent avec leur savoir, un savoir accumulé ethnologique, un savoir des objets, un savoir préhistorique aussi. C'est intéressant d'écouter André Leroy-Gouron. C'était dans Un certain regard en 1970.
Avec le développement de toutes les techniques qu'on appelle communément audiovisuel, où va aller l'écriture, la mémoire, même puisque la mémoire va être remplacée par d'immenses machines.
Et on se servira de sa mémoire pour travailler sur les machines. Il est évident que la capacité de stockage d'informations du cerveau humain est insuffisante maintenant pour le maniement des idées, et la mémoire artificielle constitue une prolongation qui est apparu avec l'écriture. L'écriture a été une forme d'enregistrement et de fixation de la mémoire pendant de longs siècles. Maintenant, on arrive à des méthodes différentes, ça n'implique pas du tout que ce soit une dégradation.
Pratiquement, l'homme de demain est... On peut constituer, d'immenses mémoires avec des magnétothèques, mais... Est-ce que l'homme ne va pas être dessaisi en quelque sorte des fonctions intellectuelles au profit des fonctions uniquement de mémoire ?
Il y a un danger. Il y a un danger. Il y a un risque de facilité dans le... Seulement, il y a ce fait fondamental que on ne met dans les machines que ce qu'on a conçu. Et il restera toujours indispensable qu'il y ait un processus intellectuel à la base de la recherche. Ce sont les instruments de la recherche qui se perfectionnent, mais ce ne sont pas les instruments de l'imagination.
Qui eux vont se perfectionner. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en définitive, il y a un certain nombre d'opérations élémentaires qui ne seront plus faites.
Oui, mais que l'on fera peut-être dans la tranche loisir de l'existence. Après tout, il n'est pas exclu qu'on n'ait plus besoin de se servir de la lecture pour travailler. Mais on pourra toujours se servir de la lecture pour lire.
Anaïs Mohuarin, on entend bien, dans la voix du préhistorien, que toutes ces questions techniques sont aussi des questions morales, au fond. Et que ce qu'on cherche, c'est à ralentir l'oubli et à se rassurer sur la survie de l'homme.
Oui, et bon, là, il y a des échos avec des problématiques contemporaines qui sont assez... C'est assez frappant. Mais en effet, il y a vraiment l'idée à la fois... d'arriver à conserver le plus de choses possible avec l'idée qu'on finira par s'en servir et qu'on finira par trouver les moyens de trouver de tirer l'information de ça. Et ça me fait aussi penser à disons l'apparition de la fiche au début du XXe siècle, de ce module qu'est la fiche et qui permet en fait de à la fois de condenser l'information, en fait de dissocier le contenu de l'information et la manière dont on va accéder à ce contenu, de dissocier l'objet et ce qui permet d'accéder au contenu de cet objet avec cette prégnance de la fiche qui va en fait être un modèle qui va être à la base de la constitution des photothèques, évidemment aussi des bibliothèques, hein, c'est le modèle, mais aussi des photothèques, et j'y pense en particulier parce qu'on a parlé de Rivière, et Rivière est un des artisans même de la notion même de photothèque en France. C'est une notion qui apparaît dans les années 30, il met en œuvre la photothèque au musée d'ethnographie du Trocadéro en 1932, et on va faire appel à lui au moment du congrès mondial sur la documentation universelle pour théoriser un peu en 1937 ce que doit avec les photothèques, avec l'idée de constituer cette documentation qu'on retrouve après aussi aux ATP.
Bertrand Tillier.
Oui, c'est-à-dire l'affiche, en effet, mais pas seulement, et je dirais aussi l'index, c'est-à-dire qu'il y a cette sorte de conscience chez Rivière que tout doit être en effet mis en fiche, mais surtout indexé par toutes sortes d'entrées pour se donner les moyens d'introduire finalement la polysémie des documents. Ce qui nous renvoie à Maget d'ailleurs.
Oui, c'est ça.
Voilà, on envoie des photographes sur des terrains d'enquête, on leur passe commande pour photographier des choses extrêmement précises qui vont être l'objet de reconstitution pour les besoins de leur mise en photographie. Mais Maget dit très clairement dans son manuel, il faut photographier les choses de manière la plus froide possible, en évitant les effets esthétiques, en évitant le flou, pour que les images puissent être à tout moment convoquées dans d'autres contextes, et qu'on puisse y voir des choses qui n'étaient pas celles que l'on a voulu photographier, mais que l'ethnographe y trouvera à un moment ou à un autre, parce que les images auront été l'objet d'une mise en fiche et d'une indexation serrée.
Et ce sont ces images indexées, neutralisées, qui vont décevoir Hervé Guibert. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à sauver le passé. Il faut inventer d'autres types de reconstitution. C'est ce qu'on va voir. Mais on va le voir à partir de ce que nous dit Mathieu Pot-Bonneville, qui est le directeur du département culture et création du Centre Pompidou. Alors, on dit qu'il nous envoie des cartes postales, mais il y a des images sur ces cartes postales, évidemment, au recto. Et là, c'est une image un peu bizarre, une sorte de maison en plâtre, un peu compacte. Je comprends pas.
Vous allez écrire un livre.
Un livre? Mais je ne pourrais pas. J'ai déjà du mal à écrire une carte postale.
Cher Patrick, restez pas dans la porte. Dans mon Auvergne natale, c'est ainsi qu'on interpelle le visiteur hésitant pour l'inciter à ne pas s'attarder sur le seuil et le convier à entrer. L'hospitalité un peu rêche de cette tournure, « restez pas dans la porte », m'a toujours semblé inquiétante. Comme si, à négliger l'avertissement, l'hôte risquait de demeurer comme un insecte pris dans l'ambre, dans la porte, à l'intérieur de cette frontière qui sépare le dedans du dehors et qui définit l'espace de la maison. Maison, House, c'est le titre donné en 1993 par l'artiste Rachel Whitehead à une sculpture d'un genre un peu spécial, l'une des plus controversées de la fin du siècle dernier. Connue pour les moulages qu'elle réalisait de l'espace intérieur d'objets du quotidien, Rachel Whitehead investit cette année-là plusieurs mois durant une modeste maison de style victorien située dans le quartier de East End à Londres. Maison promise à la destruction par le conseil municipal pour laisser la place à des espaces verts. S'adjoignant les services d'une entreprise spécialisée dans la restauration, l'artiste réalisa le moulage intégral de l'intérieur de ce bâtiment de 2 étages. Elle fit courir les fers à béton au long des murs, des cornières et des rampes d'escalier. Elle prit minutieusement l'empreinte du moindre interrupteur jusqu'à ce que le béton épouse de manière uniforme et précise la surface intérieure de chaque pièce. Se love dans chaque renfoncement, durcissent au long du chambranle et des croisillons de chaque fenêtre. Ensuite de quoi ? Une fois quitté avec les ouvriers le petit immeuble par une mince ouverture d'1 mètre carré ménagée sur le toit et bientôt recouverte, l'équipe entreprit d'éplucher le bâtiment, doter délicatement les briques, les tuiles et les moellons, jusqu'à ce que ne se dresse plus que son négatif, son moulage intérieur, géométrie opaque qui dressait, là où la maison avait auparavant pris place, un monument à l'espace qui s'y était trouvé enclos, espace à la fois exhibé et rendu parfaitement impénétrable. L'œuvre déclencha une polémique d'une rare intensité. Tantôt haïs et tantôt admirés par le voisinage, des visiteurs s'y précipitaient de leur descente d'avion. House valut à son autrice de décrocher simultanément le prestigieux Turner Prize et le prix décerné par la fondation KLF du plus mauvais artiste britannique de l'année. Prix 2 fois mieux doté que l'autre, et que Whitehead finit par accepter pour en reverser aussitôt le montant à l'ONG Shelter de soutien aux sans-abri. Donner à voir ce que les politiques immobilières londoniennes tendaient à effacer avait donc pour elle un sens discrètement politique. Mais cela n'empêcha pas Eric Flanders, membre du conseil municipal, de voir dans cet excrément, c'était son mot, une provocation déconnectée étrangère à la culture populaire du East End et d'en obtenir la destruction anticipée au bout de seulement 3 mois. Autour de la maison, donc, la tempête fit rage. On peut bien sûr être tenté de départager ici la signification intérieure d'une sculpture à la mélancolie minimale, dressant un cénotaphe au volume que peuplèrent des années durant des familles du East End. Là, les polémiques extérieures, philistines, échafaudant des murs censés opposer le vrai peuple au vain gaspillage de l'argent public. Mais, par fidélité à cette œuvre qui compliquait si remarquablement l'opposition du dedans et du dehors, on peut aussi trouver une certaine beauté aux gestes de certains visiteurs, qui faisaient semblant de ne pas comprendre que ce qui avait été une demeure se donnait désormais comme un objet de contemplation, qui déposait du courrier ou des bouteilles de lait à son seuil, réinsérant par jeu l'œuvre d'art dans l'ordinaire d'une rue londonienne. Entre le silence de l'œuvre et la vivacité des échanges sociaux qu'elle suscita, vous me permettrez, Patrick, cette fois, de rester dans la porte.
France Culture. Allons-y voir. Patrick Boucheron.
Intéressant, Anaïs Mouharin, cette histoire d'empreinte inverse, au fond, comme dans Pompéi. On voit bien qu'un désastre a eu lieu. Là, c'est le désastre de la fin de la classe ouvrière. On va y revenir. Et ce moulage, d'ailleurs, vous l'avez écrit dans une très belle étude, ce double, c'est aussi une sorte de contre-don dans cet échange très inégal entre l'ethnologue et l'observé. On peut lui laisser le moulage de sa vie d'avant.
Ouais, comme on peut aussi par ailleurs parfois donner des photographies. Enfin, il y a une sorte de lien qui peut se faire à travers l'objet et leur histoire et leur don. Et c'est intéressant parce qu'en ethnographie, du moins en France, il y a vite quand même avec Rivière dans les années 20 l'idée de finalement se défaire un peu de cette pratique du moulage. Enfin, c'est une histoire qui est pas très bien reconstituée encore, oui. Mais il y en avait avant l'arrivée de Rivière au musée d'ethnographie avant les années 28 et on en voit beaucoup moins après, même s'il y a eu a priori un petit moment où on a continué à en faire. Mais c'est repris avec l'idée de constituer plutôt que des moulages en fait, des séries, enfin de collecter des doubles, des triples, avec toujours l'idée que l'objet ethnographique, et c'est quelque chose qu'on retrouve il me semble encore après à voir, mais reste un spécimen plutôt qu'un objet unique en quelque sorte.
Sauf que là, ce qui va saisir Hervé Guibert au Grand Palais, Bertrand Tillier, c'est pas un moulage, c'est même pas une reconstitution, c'est une prise en fait, hein, c'est-à-dire que c'est effectivement la la grande salle des Fajouks qui se trouve au Grand Palais, muséifié.
C'est ça. C'est-à-dire que
la photo.
Les techniciens du Musée national des arts et traditions populaires viennent et démontent pièce à pièce,
objet par objet,
cette salle commune qui a été créée au 19e siècle et dans laquelle plusieurs générations de la famille Girbal ont vécu.
Alors il faut
donc
dire que
on vide tout, on enlève les planches du plancher, on enlève les poutres du plafond, on vide les tiroirs, on prend le manteau qui est accroché sur le porte-manteau, le calendrier des postes de l'année en cours, etc. Donc c'est vraiment une opération, on pourrait dire, de prédation, même si évidemment le terme est très fort. Et il ne faut pas oublier que les Girbal ont négocié.
C'est la photo que vous nous faisiez voir tout à l'heure, hein, effectivement.
Exactement. Il y a un contrat.
Il y a un contrat qu'on ne connaît pas très bien, d'ailleurs.
Non, mais pour lequel on sait qu'une réplique va être faite par un menuisier du Cantal pour permettre aux Girbal de continuer à vivre dans le lieu dont ils se sont défaits.
Et les Girbal, c'est un frère et une sœur. L'une et l'autre célibataires.
Exactement, et qui vivent ensemble dans cette maison familiale où ils continuent d'exploiter la petite exploitation agricole qui était celle de leurs parents et de leurs grands-parents.
Et tout ça, ça fait, comme le chantait Boris Vian en 1956, la complainte du progrès.
Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio. Une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau. Une tourniquette pour faire la vinaigrette. Un bel aérateur pour bouffer les odeurs. Des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux. Et nous serons heureux. Autrefois s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant que voulez-vous, la vie est si chère. On dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire-godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves-savates, aux canons à patates, à l'éventre tomate, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois.
Comment patrimonialiser les vies fragiles? C'est la question qu'on se pose, et notamment à partir de cette scène extraordinaire de la reconstitution de la salle commune des Fajous, et les voilà. Les Girbal dans un appartement tout neuf, tout moderne. Mmh. Et là aussi, on les photographie. Et là aussi, c'est un étrange cliché, Bertrand Tillier.
C'est une photographie de Jean-Dominique Lajoux.
Justement, qu'on a entendu tout à l'heure.
Qui montre Laurent et Joséphine Girbal dans cet intérieur refait. qui moderne. N'est donc plus tout à fait celui qu'ils ont eu, mais qui veut produire l'illusion de s'en approcher. Alors la photo est terrible, parce qu'évidemment on a l'impression qu'ils sont un peu écrasés par l'expérience qu'ils ont vécue, et on peut se mettre assez aisément à leur place, en quelque sorte. C'est-à-dire ils sont à la fois chez eux, mais ce chez eux
a changé,
n'est plus tout à fait le même. C'est dans cette variation d'un espace ordinaire que s'est jouée l'opération, d'autant que ça n'est pas une anecdote, je crois que c'est pas un détail à mésestimer. On a ajouté à cette réplique, on a ajouté un téléviseur qu'il n'y avait pas, et un carillon électrique à sonnerie Westminster.
Ça me rappelle le roman d'Éric Vuillard, Tristesse de la Terre, où les Indiens, défaits par Buffalo Bill, doivent au fond simuler dans des grands spectacles leur propre défaite. Et puis, d'une certaine manière, ce sont les nouveaux Indiens, on en reparlera, que ces paysans, Anaïs Mouarin, en fait, ce cliché ethnographique dont vous êtes l'historienne, il demande effectivement aux observés de faire les gestes, de refaire, on l'a entendu, voilà, un joug, de là en l'occurrence, dans l'Aubrac, on demande de faire de la lessive à la cendre, alors qu'on ne le fait plus, mais que ça intéresse effectivement l'ethnologue.
Ouais, et là c'est intéressant parce que précisément c'est le type de reconstitution qui était plutôt en théorie banni, qui est dans les faits pour des questions d'enregistrement de choses qu'on n'a pas pu voir quand on n'était pas... Il s'avère que ça se pratique quand même, ce type de reconstitution. Et on se demande, entre l'ethnologue du temps présent et l'historien, où se situe la frontière, en fait, comment on veut... là, en l'occurrence, dans cette famille, chez les Fajou, on se demande dans quelle mesure on a envie de savoir comment ils vivaient en retraçant leur mode de vie dans un temps long jusqu'à aujourd'hui. Sur ce genre de reconstitution.
Parce que là, on n'est plus du tout dans cette photographie neutre dont vous parliez avec Maget, Bertrand.
Non, c'est-à-dire qu'on reconstitue à l'intérieur, mais on demande aussi à ceux qui y vivent de reconstituer des gestes dont ils sont censés être les porteurs depuis un grand nombre d'années, voire plusieurs générations. Alors, Jean-Dominique Lajoux, dans ses archives, il se montre pas très complice de cette affaire. C'est-à-dire, il le fait parce qu'il est un technicien du CNRS et qu'on lui demande de le faire, mais dans les documents de travail qui sont les siens, il dit bien qu'il y croit pas du tout, cette histoire de lessive à la cendre, par exemple. Il trouve ça un peu étrange, très, très décalé.
Alors, ce problème qui est à la fois méthodologique et moral, il se pose avec la fin des paysans, il se posera aussi avec celle des ouvriers. Écoutez la sociologue et anthropologue Florence Weber dans Les chemins de la connaissance sur France Culture en 2007.
Tout le travail que j'ai effectué, c'est de découvrir que dès que les ouvriers avaient laissé la porte de l'usine derrière eux, dès qu'ils avaient fermé la porte, dès que l'usine avait fermé ses portes, ils n'étaient pas des êtres passifs, ils n'étaient pas des êtres de loisirs, mais ils étaient des hommes, donc puisque j'étais dans une usine d'hommes, la main-d'œuvre ouvrière était masculine, ils étaient des hommes qui investissaient à l'extérieur de l'usine un goût pour des activités productives, donc pour des activités de toutes sortes qui allaient du jardinage au bricolage, à la réfection de maisons, à la construction de maisons. Il y avait le mouvement des castors dans les années 50 qui était une bonne illustration, mais également toutes sortes de petites activités, ce que Richard Hogarth appelait ces riens laborieux, qui font le cœur de la vie ouvrière dès qu'elle a quitté l'usine. Et donc, par exemple, quelqu'un qui avait été cuisinier, qui avait eu un CAP de cuisinier, qui était devenu ouvrier sans qualification à l'usine, mettait ses compétences culinaires à la disposition d'un collectif.
Voilà, ça, c'est une offre de service.
Et faisait, donc, fabriquait lui-même les repas de fête de tout son voisinage. Bon, on pourrait trouver toutes sortes d'autres exemples.
Anaïs Mouarin, oui, je parlais des nouveaux Indiens tout à l'heure, c'est dire que, parce que ce sont les mêmes institutions et souvent les mêmes hommes, la situation coloniale, ou en tout cas d'étrangeté ethnographique, elle est rejouée sur ces scènes de de l'ethnologie contemporaine française.
Oui, il y a quelque chose quand même de, bah, qu'on pourrait qualifier d'assez violent dans, dans la façon dont des ethnologues débarquent en France dans un endroit qu'ils connaissent plus ou moins, je ne sais pas, ou qu'ils ont peut-être visité en vacances, mais qui débarquent et qui s'approprient ce lieu-là, qui tissent des relations de façon presque un peu, enfin, un peu forcée ou du moins avec une relation totalement asymétrique et qui viennent ramener ça à la capitale avec l'idée de savoir qui est légitime après aujourd'hui pour dire quoi faire de ce type de patrimoine, pour dire où l'exposer, comment l'exposer, qui montrer sur des photographies aussi. C'est des choses qui se posent de façon très présente, évidemment, très actuelle pour les photographies plus coloniales. Mais en fait, ces questions, elles se posent aussi un petit peu pour les questions, pour des photographies plus métropolitaines. Enfin, je pense à l'anecdote d'une collègue qui travaille au Musée du Dauphiné qui me racontait comment un portrait présenté en grand dans une exposition avait suscité un petit peu la polémique parmi les descendants de la famille qui avaient reconnu le portrait d'un de leurs membres de la famille et qui s'étaient demandé qu'est-ce que ce portrait faisait là, pourquoi ils n'avaient pas été sollicités pour savoir avoir l'autorisation de la publier.
Alors ce qu'il faut dire, c'est que l'exposition sur laquelle vous avez travaillé, Bertrand Tillier, elle a été ensuite démantelée, elle est aujourd'hui en pièces détachées au Mucem, où vous avez été en résidence, et c'est cela qui a suscité ce livre, Le Fantasme Patrimonial. Bon, le Mucem, donc le musée à Marseille, qui est héritier du musée des arts et traditions populaires, Georges-Henri Rivière, c'est effectivement un grand, le grand homme de la collecte, de l'attention ethnographique, et c'est difficile de statuer sur leur bonne foi, sur leur sincérité, parce que eux sont de toute façon convaincus qu'ils font le bien, ils vont sauver le passé.
Oui, ils constituent le patrimoine de la nation, donc ils mettent en archive ce monde avec l'absolue sincérité d'une démarche qui est une démarche scientifique. Il faut aussi rappeler que évidemment ce qui se joue, c'est le passage du folklore à l'ethnologie, donc d'abandonner le folklore, même si c'est pas toujours très clair, d'abandonner le folklore au profit de l'ethnologie, donc d'une science, de ses protocoles, de ses pratiques. Et ensuite, on arrive évidemment assez rapidement, à partir du moment où les objets entrent au musée, à des logiques qui sont celles de la conservation.
Oui.
Et donc du démantèlement pour ces unités écologiques comme la salle commune des Fajous, qui, pour être conservée, doit être évidemment démantelée et conservée dans des collections où le bois n'est pas conservé de la même manière que la céramique, par exemple.
Mais en tout cas, si on reconnaît dans cette scène de collecte ethnographique, un peu de dédain culturel. Bon, d'une certaine manière, on peut admettre que c'est à leur corps défendant, mais enfin, il est quand même là. Et c'est l'occasion, justement, d'écouter un extrait de La Place d'Annie Ernaux, lu par Emmanuel De Vos sur France Culture en 2008.
On se fait photographier avec ce qu'on est fier de posséder. Le commerce, le vélo, plus tard la 4 chevaux, sur le toit de laquelle il appuie une main, faisant par ce geste remonter exagérément son veston. Il ne rit sur aucune photo. Par rapport aux années de jeunesse, les 3-8 des raffineries, les rats de la vallée, l'évidence du bonheur. Ils ont pu embellir la maison, supprimant ce qui rappelait l'ancien temps, les poutres apparentes, la cheminée, les tables en bois et les chaises de paille. Avec son papier à fleurs, son comptoir peint et brillant, les tables et guéridons en simili marbre, le café est devenu propre et gai. Du bal à Tom à grand damier jaune et brun a recouvert le parquet des chambres. La seule contrariété, longtemps, la façade en colombage, à raies blanches et noires, dont le ravalement en crépi était au-dessus de leurs moyens. En passant, l'une de mes institutrices a dit une fois que la maison était jolie, une vraie maison normande. Mon père a cru qu'elle parlait ainsi par politesse. Ceux qui admiraient nos vieilles choses, la pompe à eau dans la cour, le colombage normand, voulaient sûrement nous empêcher de posséder ce qu'ils possédaient déjà, eux, de moderne. L'eau sur l'évier et un pavillon blanc. Il l'a emprunté pour devenir propriétaire des murs et du terrain. Personne dans la famille ne l'avait jamais été.
France Culture. Allons y voir. Patrick Boucheron.
Anaïs Mohuarin, c'est très beau d'abord d'entendre Annie Ernaux poser des mots justes sur cette question.
Oui, on ressent, enfin, vous parlez de dédain culturel, je crois, mais on est à deux doigts du, en fait, d'un ressenti de mépris de classe qui n'est pas forcément éprouvé ou du moins conscient par les acteurs qui en sont les auteurs, en fait, mais qui peut être évidemment vécu par ceux qui en sont les objets, en fait, qui en sont destinataires en quelque sorte. Et je trouve qu'Annie Ernaux le rend très bien cette subtilité de la bonne foi, comme vous
bien
disiez,
sûr.
Des gens qui veulent conserver ça, pour qui ça a vraiment du sens, surtout qu'on c'est que beaucoup de Parisiens, beaucoup de gens de ville viennent de milieux ruraux au départ, et dans les années 60, c'est encore plus le cas. Donc il y a vraiment l'idée d'arriver à conserver aussi cette histoire qui est quand même quelque part leur histoire, je pense. Enfin, c'est assez sincère, mais qui se transforme en geste d'une violence assez radicale pour les gens qui vivent dans ces lieux-là et qui n'ont rien à retirer, en fait, quelque part, de cette transaction.
Edgar Morin l'avait dit dès les années 50, d'ailleurs, Bertrand Tillier.
Oui.
Au fond, il n'y a que les élites urbaines qui sont nostalgiques du passé. Ces paysans bretons qu'il allait voir, une table en formica, ça leur allait très bien.
Bien sûr, et évidemment, Rivière est aussi conscient du fait que tout ce qu'il va faire entrer dans les collections nationales, c'est aussi un univers dont la lisibilité commence à s'estomper, parce que précisément, la société française est en train de s'urbaniser et qu'elle perd progressivement le lien avec l'utilité de ces objets, avec leur signification,
oui.
Mais que c'est quand même l'histoire de chacun dans la France des années 60.
Collecte et ou spoliation. Vous avez parlé de translocation tout à l'heure, Bertrand Tillier, empruntant le terme à Bénédicte Savoie, qui a travaillé, elle, sur l'art africain et les demandes de restitution. Vous posez cette question, j'ai entendu Anaïs Mahuarin que vous êtes aussi sur cette ligne, précisément parce que c'est votre travail, hein, d'avoir effectivement examiné les collectes ethnologiques. Intéressant quand même, votre livre est paru il y a quelques mois, Bertrand Tillier, Le fantasme patrimonial, récit des Fajous. Cette question de collecte ethnologique, restitution, spoliation, ça racle un peu dans le fond, hein, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas d'accord quand même. Hein.
Non, tout le monde n'est pas d'accord, mais je ne porte pas de jugement de valeur,
oui.
Au fond, sur cette question. Je pense qu'il faut quand même s'interroger sur ce qu'on pourrait appeler une spoliation au champ, en quelque sorte.
C'est ça.
Qui n'est pas très étonnante dans la mesure où Rivière, Anaïs Morin le sait mieux que moi, où Rivière a participé à la préparation de la mission Dakar Djibouti.
Dont on a parlé dans cette émission.
Exactement.
Oui.
Donc, on voit bien qu'il y a là une espèce de décalque ou de transposition d'une culture extra-occidentale vers une culture métropolitaine, vers des pratiques métropolitaines, et que, en quelque sorte, la similitude doit être interrogée.
Anaïs Mauvarin, rapidement.
Oui, tout à fait. On se demande en quelle mesure il est pertinent de parler d'une forme de colonialisme de l'intérieur, si on peut dire. Enfin voilà, c'est un terme un peu fort et je mets beaucoup d'interrogations parce que c'est des questions sur lesquelles on a vite fait de tisser des comparaisons qui sont parfois un peu maladroites. Mais on a un geste qui en effet vient encore des années du 19e siècle, des années 30. Dakar Djibouti, on est en 1931-1933. On a clairement ce qu'on peut appeler des spoliations, mais on a des butins de guerre qui sont prélevés durant cette mission-là. Encore une fois, pour la bonne cause aussi, il y avait l'idée, même chez Mauss, il argumente, et on peut croire à la bonne foi tout à fait de ces gens-là, c'est-à-dire qu'on est un pays colonisateur, on a colonisé des gens qui ne sont pas nécessairement aptes à constituer des archives, et en fait, c'est de notre devoir de constituer ces archives, et il y a un peu cet argument-là derrière pour constituer un tel patrimoine. Évidemment, il faut le reconstituer dans son contexte, et des enjeux aussi de musées à l'échelle transnationale.
Et le contexte de la collecte en Aubrac, c'est 1965, belle année. C'est l'année où Barbara chantait Si la photo est bonne.
Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne, il y a le voyou du jour qui a une petite gueule d'amour. Dans la rubrique du vice, il y a l'assassin de service qui n'a pas du tout l'air méchant. Qui a plutôt l'œil intéressant, coupable ou non coupable, s'il doit se mettre à table, que j'aimerais qu'il vienne pour se mettre à la mienne. Si la photo est bonne, il est bien de sa personne. N'a pas plus l'air d'un assassin que le fils de mon voisin. Ce gibier de potence, pas sorti de l'enfance, va faire sa dernière prière pour avoir trop aimé sa mère. Bref, on va pendre un malheureux qui avait le cœur trop généreux. Moi qui suis femme de président, j'en ai pas moins de cœur pour autant. De voir tomber des têtes, à la fin ça m'embête. Et mon mari, le président, qui m'aime bien, qui m'aime tant. Quand j'ai le cœur qui flanche, tripote la balance. Si la photo est bonne, qu'on m'amène ce jeune homme. Ce fils de rien, ce tout est pire. Cette crapule au tout sourire, ce grand gars au cœur tendre qu'on n'a pas su comprendre. Je sens que je vais le conduire sur le chemin du repentir pour l'avenir de la France contre la délinquance. C'est bon, je fais le premier geste, que la justice fasse le reste, surtout qu'il soit fidèle. Surtout, je vous rappelle, à l'image de son portrait, qu'il se ressemble trait pour trait. C'est mon ultime condition pour lui accorder mon pardon, qu'on m'amène ce jeune homme. Si la photo est bonne, si la photo est bonne, si la photo est bonne.
Vous écoutez bien France Culture et voilà que déboule dans notre studio notre sociétaire Emmanuel Charpie pour nous parler d'autres scènes de crime. Lesquelles, commissaire Charpie ?
Eh ben, je voudrais évoquer un autre genre de lieu pétrifié à la fois par la photographie, par le texte et par la saisie d'objets, la scène de crime, ah effectivement. Ben voilà. Pour nous, rien de plus familier, comme au XIXe siècle où tous les soirs des centaines de comédiennes et de comédiens étaient poignardés ou étranglés sur les scènes des théâtres du boulevard du crime, aujourd'hui les séries policières répètent à l'infini des scènes de crime figées par la lumière d'un flash.
Donc ces images ne sont pas nouvelles ?
Non. Dans le monde de la police, elles arrivent à partir des années 1870 et dans les années 1880, Alphonse Bertillon crée un laboratoire à la préfecture de police de Paris et fixe une technique pour rendre les objets et les corps mesurables et recombiner différentes vues pour reconstituer la totalité de la scène. Je le cite, « La photographie judiciaire intervient pour conserver une vue exacte, complète et impartiale des locaux, des choses et des êtres. » Rodolphe Archibald Reiss, qui fonde à Lausanne un institut de police scientifique, pense lui aussi la photographie comme une mémoire artificielle et infaillible. Il écrit, en phénoménologue, il est reconnu que nous ne voyons que ce que nous voulons voir. L'appareil photographique est, lui, l'enregistreur qui voit tout. Même si les photographes arrivent toujours trop tard, un peu comme les historiennes et les historiens, il faut qu'ils soient les premiers. La scène doit être gelée, comme disent les policiers. On apprend donc péniblement aux voisins et aux policiers à ne plus fouler et fouiller la scène avant l'arrivée des photographes.
Donc ce fantasme policier a créé des millions d'images.
Des millions à travers toute l'Europe et aussi en Amérique du Nord. Et si à Paris, elles ont été largement jetées, ces images, des polices ont tout archivé, comme celle de Liège, en Belgique, qui vient de verser, il y a très peu de temps, 100 000 clichés aux archives d'État. Ce sont des vues de cadavres, mais aussi de lieux, d'objets, de traces, qui deviennent des indices, une chaise renversée ou un crucifix en bronze cabossé, une empreinte de pas sur un parquet, ou de doigts sur une bouteille. Les archives de Liège conservent les dossiers complets. À côté des photographies, on trouve les interrogatoires des témoins et des prévenus, le récit de l'enquêteur, des plans, et enfin, des images étranges et trompeuses, des photographies de reconstitution.
Pourquoi étranges ? À quoi elles ressemblent ?
Alors, vous pouvez vous en faire une idée en ce moment, dans une exposition au musée de la photographie de Charleroi. Vous y verrez, par exemple, un homme qui calmement fait mine d'assommer avec une clé à molette une femme impassible. Un jeune gringalet étranglant sans conviction un homme corpulent ou encore un homme étendu au sol, la tête posée sur un coussin. c'est que les photographes reviennent toujours deux fois. Et la deuxième fois pour photographier une scène, cette fois repeuplée. Les victimes n'étant plus là pour rejouer les scènes, on mobilise des employés de la police ou même un corpulent inspecteur pour jouer une jeune femme, d'où le caractère souvent surréaliste de ces images. Il faut noter que la photographie policière se développe en même temps que le roman policier. Les photographies associées à un récit doivent en quelque sorte recréer le film du crime, donner à voir la chorégraphie des gens et des choses, des inculpés et des pièces à conviction.
Donc ce sont des fictions, en fait.
Oui, et elles sont toujours fabriquées à partir de récits. Juste un exemple, suite à un meurtre crapuleux d'une vieille dame, je vous lis un extrait du rapport de l'enquêteur. L'inculpé mime la scène de l'agression. La personne qui représente la victime se dirige vers le lavabo, détache un cadre. À cet instant, l'inculpé lui applique un mouchoir sur la bouche. Il lui passe une corde autour du cou. Une photographie de cette scène est prise. Naturellement, ces images deviennent des pièces à conviction lors des procès. Elles sont souvent décisives et souvent se confondent pour le public avec la scène réelle du crime. Finalement, comme les historiens et les historiennes, et comme les folkloristes, la police et la justice sont convaincus que par l'image et le texte, on peut reconstituer le passé.
Merci Emmanuel Charpie. Rappelez-nous le titre de cette exposition à Charleroi.
De beaux assassinats.
Ah, c'est chouette. Oui, voilà. Il y a un catalogue, vous avez écrit dedans.
Il y a un catalogue qui n'est pas lié à cette exposition, qui est lié effectivement au fond de la police de Liège.
Et cette question-là dont vous avez parlé, au fond c'est intéressant Bertrand, il y ait cette notion de scène de crime. C'est pas sans rapport avec ce dont on parle depuis
c'est
une heure.
Vrai. Et surtout la question de la reconstitution, évidemment, oui. Qu'on utilise beaucoup dans la police, dans la justice. Alors, par esprit d'escalier, je pense à cette reconstitution dans le cadre de l'affaire Dominici, où Gaston Dominici est extrait de prison pour reconstituer la scène, et où il s'enfuit, et on voit comment la reconstitution peut, en dépit de ses très bonnes intentions initiales, si j'ose dire, bifurquer et être modifiée dans les résultats qu'elle escomptait.
Reconstitution a un sens judiciaire, et ça a aussi un sens spectaculaire et peut-être même méthodologique, Anaïs Mohuarin. En fait, quand on demande à ce qu'on observe de reconstituer des gestes du passé, là encore, il y a quelque chose effectivement de légiste, ça veut dire que quelque chose est mort au fond.
Exactement, il y a l'idée comme ça d'enquêter aussi, d'arriver à tout trouver toutes ces traces comme on trouvait déjà chez Griol dans les années 30, ce côté inquisiteur, inspecteur qui veut tout voir, qui passe aussi par les photographies.
Manuel Charpie.
Non, bah ça fait songer aussi aux périodes Rooms, enfin à cette idée de condenser dans une seule pièce un moment, un temps. Une période, enfin justement, période n'est pas un temps, c'est la question. Mais je pensais aussi, en vous écoutant, on va dire à partir de des années 1880, il y a aussi des bourgeois, des savants, qui essayent de pétrifier leurs propres intérieurs. Je pense à Mortier, qui donne sa salle de bain, pour qu'on voit comment était une salle de bain du 19e siècle, un siècle plus tard. Alors, sa maison est détruite par un bombardement, mais je pense aussi à la...
Vous
à
avez
la
donné votre salle de bain, vous
J'y songe. Et puis, je pense aussi à la maison Mantin à Moulins, ce bourgeois qui construit une espèce de maison néo je sais pas quoi, et qui en 1902 dit « je la lègue à la mairie, mais elle sera ouverte un siècle plus tard ». Donc il y a aussi cette idée de conserver intact comme ça un espace, quoi, de le pétrifier.
Bertrand Tillier, c'est bien ça, le fantasme patrimonial. C'est ce désir de figer le temps.
Oui, c'est une aspiration qui est évidemment tout à fait sincère, mais qui en même temps est sans doute un peu vaine, en dépit de tout ce que l'on peut y investir d'un point de vue scientifique et patrimonial.
C'était Allons-y voir. Merci à vous trois, Bertrand Tillier, Anaïs Mahuarin et Emmanuel Charpie. Les références de vos ouvrages, de vos articles, de vos livres sont à retrouver sur la page de notre émission. Une émission préparée par Anouk Minaudier, à la prise de son Ludovic Auger et à la réalisation Laurence Millet. Merci à vous toutes et tous. On a park bench.